Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée au radicalisme djihadiste et plus particulièrement à Daesh. Les attentats de janvier et novembre 2015 en France et ceux qui ont suivi ont généré un besoin de comprendre les radicalisations contemporaines. Quelle place la France a-t-elle dans la stratégie de Daesh? Pourquoi le public francophone est-il une cible importante pour l'État islamique qui lui destine une communication spécifiquement conçue pour lui? Pour quelles raisons l'espace francophone est-il unique et important pour l'organisation? La perte de territoire par Daesh va-t-elle signifier affaiblissement de sa capacité d'attraction? Autant de questions pour nos invités qui sont les trois auteurs du rapport intitulé « Propagande francophone de Daesh, la mythologie du combattant heureux ». Margot Chouraki, journaliste et auteur, bonjour.
Bonjour.
Pierre Conessa, co-directeur de l'Observatoire des radicalisations au sein de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. Bonjour.
Bonjour.
Et François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de l'influence stratégique, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, Daesh, l'arme de la communication dévoilée. Bonjour.
Bonjour.
Les départs vers les terrains de guerre sont largement antérieurs à l'apparition de Daesh comme acteur médiatique à partir de 2014. Qu'est-ce qui change avec l'arrivée de Daesh? En quoi y a-t-il le tournant? Qu'est-ce qui finalement fait l'originalité de Daesh? Pierre Conessa.
Daesh a plusieurs originalités qui finalement nous sont apparues au fur et à mesure de l'étude. D'abord, le point central, c'est que Daesh a inclus la communication dans sa stratégie d'ensemble. Il y a une véritable réflexion stratégique derrière l'arme de la communication. Ça se décline de plusieurs manières. D'abord, le fait que Daesh communique en 11 langues différentes, alors qu'Al-Qaïda se contentait de l'anglais et de l'arabe. Ça veut dire que la cible de la communication de Daesh sont pour l'essentiel des communautés, soit musulmanes expatriées, soit des jeunes en rupture. Et c'est pour ça qu'on a pensé à étudier la communication francophone de Daesh, parce que la plupart de nos jeunes qui partent en Syrie ou en Irak ne parlent ni l'arabe ni l'anglais. Donc effectivement, c'est bien que la communication francophone est là pour les convaincre. Et la deuxième chose, mais on aura l'occasion d'y revenir, c'est que cette communication est totalement décentrée par rapport à celle d'Al-Qaïda, qui se satisfaisait de longs prêches de Ben Laden ou de Zawahiri. Et là, en fait, c'est le héros et le combattant. Le combattant qui, à travers son smartphone, va envoyer à sa fratrie, à ses amis, des images montrant combien il est bien en Syrie, puisqu'il a la Kalachnikov, le 4x4, la femme et la maison. Voilà, donc tout ça fait effectivement une communication tout à fait différente de celle qu'on avait connue avant.
François-Bernard Huyghe.
Oui, avec une autre particularité, c'est que cette communication est en grande partie territorialisée. La caractéristique du califat, c'est qu'il est un califat, c'est-à-dire qu'il est établi sur un territoire. Et un des thèmes sur lesquels insiste énormément la propagande de Daesh et que n'évoquait évidemment pas du tout la propagande d'Al-Qaïda, c'est ce qui s'appelle la hijra, c'est-à-dire l'obligation pour un bon musulman. Alors, bon musulman, ça veut dire salafiste, djihadiste, etc., d'aller vivre sur une terre où s'exerce la charia. Donc, ça veut dire, vous devez immigrer en Syrie ou en Irak, sur la terre du califat, faire allégeance. Et évidemment, c'est très différent de la rhétorique d'Al-Qaïda, qui préconise la lutte contre l'ennemi lointain. Ça n'empêchera pas, on l'a vu malheureusement, Daesh de donner aussi des ordres et des instructions pour des attentats à ceux qui ne peuvent pas faire la hijra, mais la hijra est placée théologiquement sur le même plan que le djihad au sens le plus militaire.
Alors,
du terme.
Vous avez prononcé « devait », il y a donc une notion de devoir.
Oui, oui, alors, il n'y a que ça, si je veux dire. C'est une idéologie hyper efficace, en ce sens qu'elle ne connaît que l'obligatoire et l'interdit. Et qu'elle ne donne aucune circonstance atténuante pour ignorance, bêtise, égarement, etc. Tout est blanc ou noir, tout contribue à vous faire aller au paradis ou vers l'enfer. Tout vous donne un mérite pour conquérir la terre ou fait de vous une victime légitime d'un massacre.
Alors, comment finalement avez-vous travaillé, Margot Chouraki?
On a travaillé d'abord en analysant les revues publiées par Daesh, et c'est aussi la grande différence avec Al-Qaïda, et les vidéos. On connaissait Inspire d'Al-Qaïda, qui était la première revue publiée en langue anglaise, extrêmement moderne, et d'ailleurs Daesh a assez bien copié, entre guillemets, cette revue en publiant Dabiq en langue anglaise, mais il y a aussi Dar el-Islam en langue française, Constantinople en langue turque, Istok en langue russe, et il y a aussi Rumia, Rome, qui est aujourd'hui publié en 8 langues, qui est un mensuel. Donc en fait, Daesh a amplifié la publication de magazines avec des infographies, avec une tout ce qui est employé, la typologie, la formulation, l'utilisation de l'image, des photos, est extrêmement moderne et ressemble d'ailleurs à ce qu'on voit dans la presse occidentale. Donc il y a d'une part tout ce qui est propagande en langue écrite, et puis il y a la propagande visuelle, vidéo. Et là, pareil, Al-Qaïda faisait quelques vidéos, mais c'était surtout, Pierre le disait, Ben Laden devant sa grotte, des prêches de Zawahiri qui étaient quand même extrêmement barbants. Là, Daesh produit des vidéos extrêmement modernes, au code hollywoodien, on l'a beaucoup dit. J'en ai fait une typologie, je reviendrai un peu plus tard sur ça. Et c'est vrai que c'est la grande différence. Et en plus, cette communication est diffusée par les réseaux sociaux, alors qu'à l'époque d'Al-Qaïda, c'était des cassettes VHS qu'on se distribuait sur des marchés.
Donc finalement, Internet est juste fondamental hein, dans cette propagande et dans cette communication de Daesh, François Bernard.
Non seulement Internet, c'est évident pour une organisation qui se veut mondiale, mais je dirais le Web 2. En fait, pour simplifier, Al-Qaïda était plutôt Web 1. On mettait ces cassettes de prêches un peu ennuyeuses avec des gens face caméra quelque part avec en ligne et puis les gens aux gens de le trouver. Là, on est rentré dans un non seulement dans une production de matériel de propagande sophistiqué depuis le califat ou quelques centres, mais aussi dans un système de circulation, recommandations, commentaires, liens, etc., qui est typique des réseaux sociaux. Et derrière la force de production de la propagande, il y a une force de diffusion et j'allais dire d'auto-allumage de ces communautés qui relaient, commentent et se renforcent dans leurs convictions.
Alors que dire de la facilité d'accessibilité de cette propagande, Pierre Conessa, et je vois que vous me faisiez signe pour ajouter quelque chose.
L'accessibilité est quasi complète. Hein. On a fait le test en aveugle pour savoir si véritablement c'était compliqué d'accéder. Parce que la base de données qu'a constitué Margot, c'est-à-dire cette base de données à la fois de texte écrit, de vidéo, etc., est quand même un matériau qui finalement est intéressant par sa totalité. Bon. J'en profite pour dire qu'il n'y a pas de base de données publique sur ce genre de sujet. C'est un peu surprenant, ça veut dire qu'on a commencé à faire de la contre-propagande sans analyser la propagande, ce qui est quand même une performance assez intéressante. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'effectivement, l'utilisation des réseaux sociaux par Daesh fait que cette propagande est incensurable. Il est totalement impossible de l'arrêter. Et ça pose effectivement une question, c'est qu'encore une fois, on est sur un système où si on sait que la censure n'est pas possible, c'est qu'il faut décentrer l'analyse, c'est qu'il faut se demander d'abord quelle est l'efficacité de cette propagande, parce que tout de suite on est parti sur l'idée que toute la radicalisation se faisait sur Internet, ce qui à mon avis faux. Et d'autre part, ça veut dire qu'on en a conçu qu'il fallait faire une contre-propagande, mais cette contre-propagande n'a aucune chance de réussir, aucune. Parce que on ne se situe pas dans le même champ d'activité, on n'est pas sur, disons en quelque sorte qu'on ne fait pas redescendre un transcendant sur Terre avec des cours d'instruction civique, si vous voulez. Or, on est dans une logique de cours d'instruction civique. Voilà.
Il faut préciser d'ailleurs que une des choses sur lesquelles nous sommes en plus butés dans cette étude, c'est qu'il n'y a pas de réseau virtuel sans réseau humain. Je m'explique. Vous ne tombez pas par hasard sur de la propagande djihadiste qui vous imprègne le cerveau. C'est comme les maris qui racontent à leurs femmes qu'ils sont tombés par hasard sur un site d'escort girls. Ça n'est jamais innocent. Alors, si vous êtes dans la naïveté totale, si vous tapez... J'ai fait l'expérience dans un colloque au Québec sur le djihadisme. Si vous tapez naïvement « je veux faire le djihad, je veux aller en Syrie, je veux rejoindre les Mouadjidines », les moteurs de recherche repris par Google et autres ne vous donneront pas... évidemment, accès immédiat à un site djihadiste ou à ces vidéos ou à cette revue comme celle que j'ai là sur ma tablette. Mais, avec un peu d'astuces, je ne vais pas dire ces astuces à l'antenne, bien entendu, avec un peu de conseils de gens un peu initiés, vous contournez très très vite ces défenses, ce qui fait que nous avons pu travailler, évidemment, sur des dizaines de revues et des dizaines de vidéos... parfois par des sites anti-djihadistes ou par des astuces que, une fois encore, je ne peux pas dire à l'antenne.
Alors, quelques mots, on est là pour ça, parler de cette propagande francophone. En quoi est-elle spécifique par opposition à la propagande anglophone? Est-ce qu'il s'agit d'une traduction ou on part dans quelque chose de beaucoup plus subtil, Margot Chouraki?
Alors, c'est absolument pas une traduction, c'est une propagande vraiment qui... est destiné à un public francophone. Alors d'une part parce que c'est un énorme contingent, les chiffres diffèrent, mais on parle de plusieurs milliers de combattants francophones qui sont partis. Et donc du coup, il y a eu cette publication de Dar el-Islam, et là, on est sur des référents français. Dar el-Islam n'est pas une traduction de Dabiq. On parle des politiques français, de Manuel Valls, de François Hollande. On s'adresse aux Français avec ce qu'ils connaissent. Par exemple, il y a beaucoup d'extraits, notamment dans les vidéos, de Michel Onfray sur BFM TV qui dit « on ne peut pas attaquer les musulmans ». Ils prennent des extraits de journaux français. Et ça, c'est très particulier par rapport à ce qu'on connaissait d'Al-Qaïda. Il y a plusieurs thématiques quand même qui reviennent. Le passé colonial, évidemment, de la France. Les interventions en politique étrangère et notamment les bombardements en Syrie et en Irak. Et l'école laïque est obligatoire. Mmh. Donc ça, c'est vraiment trois thématiques qui font toutes les spécificités françaises et sur lesquelles surfe, entre guillemets, la propagande.
Alors ça, on développera parce que je pense que c'est, d'une certaine manière, ce que vous évoquez là à l'instant, notamment les liens avec la politique étrangère française. C'est, en tout cas, à défaut d'être une surprise, en tout cas, c'est une confirmation. Et il n'est pas seulement question de radicalisation dans les prisons, un rejet de la société française. Quelques mots sur l'aspect francophone. La France cible principale davantage que la Belgique, que la Suisse. Pierre connaît ça.
Oui, incontestablement. Le discours est centré sur la France. Quelques incidents sur la Belgique, très peu sur le Canada. Il reste une grande interrogation qui est quand même l'Afrique francophone, dans laquelle effectivement le salafisme progresse beaucoup, mais ça n'est pas traité en tout cas dans l'espace de la communication francophone telle qu'on l'a étudiée. Il y a une deuxième remarque que je voudrais faire pour l'ajouter à ce que vient de faire Marco. Il y a tout un numéro spécial consacré après les attentats de novembre 2015 pour justifier à l'égard des musulmans français le fait qu'il y a eu des victimes musulmanes dans l'attentat du Bataclan et ainsi de suite. Et ça, c'est très important parce que c'est tout un débat qui se veut théologique pour expliquer qu'en fait, depuis le début, les mauvais musulmans peuvent être massacrés. Deuxième remarque, encore une fois, sur le paysage politique français. Paradoxalement, à part le président et le premier ministre, très peu de citations sur la classe politique française. Marine Le Pen n'apparaît qu'une seule fois, et encore pas véritablement pour une dénonciation. Que... Ouais. Bernard-Henri Lévy, jamais.
Mais alors... François Bernard-Huyghe.
En fait, la France a un gros dossier auprès de Daesh. Il y a un dossier, je dirais, idéologico-historique où on nous reproche, sans faire la moindre distinction, à la fois d'être la fille aînée de l'Église, le pays des droits de l'homme, un pays de francs-maçons...
Enfin, l'origine de la croisade.
On est à la fois l'origine de la croisade, l'origine de la République et un pays laïque, tout ça étant indivisible, évidemment, la colonisation, etc. La ligne Sykes-Picot, enfin voilà, des choses de ce genre. Donc notre dossier est lourd. Et en plus, on nous reproche... Évidemment, les bombardements, les interventions, on voit souvent la Hollande mis comme cible parce qu'il a fait bombarder des civils syriens et autres, et tout ça dans une idée que effectivement nous serions à la fois particulièrement agressifs, particulièrement arrogants et que nous persécuterions les musulmans, mais ils nous disent pas à cause du racisme, de l'exclusion des jeunes de banlieue, mais parce que interdiction du voile, interdiction des prières, et donc une impression d'être persécuté, et on s'adresse aux musulmans de France, non pas en leur disant tu es dans un pays abominable où il y a un parti d'extrême droite et tu es discriminé à l'embauche, mais en leur disant si tu es un homme, viens en Syrie, c'est le seul endroit où tu pourras vivre ta foi de musulman et non pas en cette terre de mécréance. Le seul fait de vivre en France est presque déjà, je ne sais pas s'il faut dire un péché ou un crime, mais une faute en tout cas.
Et en miroir d'ailleurs, il faut remarquer que la description de la vie dans les territoires tenus par Daesh est une vie paradisiaque, c'est-à-dire le jardin d'enfants, le fait que les femmes puissent se déplacer librement voilées, qu'il y ait des hôpitaux qui soignent les blessés, etc. etc. Donc dans l'idée de la hijra, il y a aussi l'idée, regardez, venez non seulement dans le seul véritable État islamique de la planète, mais en plus dans lesquels les conditions de vie sont parfaites. Et ça, évidemment, quand on additionne les images de victimes et en même temps les images de conditions de vie dans lesquelles les marchés sont approvisionnés, etc., tout ça peut parfaitement convaincre qu'effectivement un jeune en rupture puisse tenter le coup.
L'un des arguments principaux en fait de la propagande de Daesh, c'est cet argument du djihad défensif. C'est-à-dire que les avions français nous bombardent, et ça ils adorent, ils montrent des images, et d'ailleurs les journalistes ne vont pas, très peu, en Syrie et en Irak, donc c'est des images dont ils ont la primauté. Les avions français nous bombardent, donc nous, en rétorsion, on est attaqués, donc on attaque. C'est l'argument du djihad défensif. Après le 13 novembre, Dabik avait sorti un numéro qui s'appelait « La juste terreur ». Ça résume toute la rhétorique de Daesh. Là, dans les derniers numéros de Rumia, je regardais le troisième qui est sorti en novembre 2016, il parle de tactique de juste terreur, avec pas mal de photos de camions, la tactique du camion bélier attaqué. Donc on a eu quand même Stockholm, Londres, Berlin, le campus de l'Ohio et évidemment Nice. Dans le Rumia 4, il parle d'actes de juste terreur. Alors, juste terreur ou juste terrorisme, c'est traduit de l'anglais, donc c'est compliqué. Là, par exemple, il parle du couteau, des attaques au couteau et de l'importance d'employer un couteau qui est très facile à se procurer et d'aller attaquer qui que ce soit. Pareil, dans le 5, il parle même de l'incendie. Donc, cette thématique du djihad défensif, de « vous nous attaquez » et la France est en première ligne dans la coalition internationale, évidemment menée par les États-Unis, mais où la France est extrêmement présente. Donc, nous, on vous attaque.
Et dans leur mentalité juridico-théologique, il s'agit de juste châtiment et ils exercent des peines spectaculaires à notre égard parce qu'ils appliquent la loi et qu'ils nous jugent. Alors ces peines, elles peuvent être appliquées soit comme dans le cas du Bataclan par des commandos de haut niveau, quand je dis ça c'est entre guillemets, et au sens technique ils savent se procurer des Kalachnikov, des ceintures d'explosifs, mais on recommande aussi à tout un chacun, en particulier celui qui pourrait pas aller combattre et mourir sur le front syrien, selon la célèbre phrase d'Alan Nini, prenez un couteau, une pierre ou un véhicule et tuez qui vous pouvez. En quelque sorte, n'ayez pas de trop grandes ambitions. Si vous tuez 4 personnes dans la rue, c'est déjà très bien.
Alors, pas de loup solitaire, hein, c'est ce que vous soulignez dans ce rapport, et que finalement, les liens humains sont juste fondamentaux pour un possible passage à l'acte. Je voudrais juste revenir, pour terminer cette première partie d'émission, vous vous étonnez effectivement de l'absence d'analyse de la classe politique française sur le lien entre opérations aériennes et puis les attentats, et vous déplorez l'absence de débat critique. Ça, c'est la grande surprise de l'analyse du rapport. Pierre connaît ça.
Non, c'est le pendant du djihad défensif. C'est-à-dire qu'on se prétend attaquer alors que c'est nous qui avons déclenché l'opération internationale, mais c'est plus agréable pour un président, pour un premier ministre de dire qu'on nous a déclaré la guerre, ce qui est faux. Donc cette absence de débat critique est grave, puisque finalement, les assassins du Bataclan le disaient. Ils disaient, vous tuez des enfants chez nous, on vient tuer des enfants chez vous. Et on fait semblant de ne pas le croire. Quand les attentats de Madrid ou de Londres se sont passés, on a expliqué que c'était lié à l'intervention de l'Espagne et de la Grande-Bretagne aux côtés des Américains dans la guerre en Irak. Mais nous, quand on vient nous attaquer chez nous, on nous dit, ah non, mais nous, c'est pour ce que nous sommes. C'est vrai que c'est pour ce que nous sommes, mais c'est aussi pour ce que nous faisons. Or, comme on ne veut pas changer ce que nous sommes, il vaudrait mieux qu'on change ce que nous faisons. Mais le débat n'a pas eu lieu.
Et ce débat a souvent, d'ailleurs, ne va pas aux bases. Et on a été surpris de voir le nombre de gens qui ne lisaient pas cette littérature, ne voyaient pas ces vidéos et discouraient sur les intentions secrètes, voire psychanalytiques, des djihadistes, sans tout simplement regarder ce qu'ils disent. Alors, bien entendu, je ne nie pas qu'il faille chercher des interprétations sociologiques, psychologiques et autres dans le fait que des gens adoptent une certaine idéologie qui commande de tuer, mais il faut au minimum savoir en quoi consiste cette idéologie et pourquoi elle a une attractivité particulière. En ce moment, en vous parlant, je suis en train de regarder un numéro de Rumia d'avril de l'État islamique, où on voit un père qui est un martyr, qui lève le doigt vers le ciel, avec un tout petit enfant qui a le bandeau de djihad de l'État islamique sur la tête. C'est ça leur propagande, c'est-à-dire ce modèle de cette figure paternelle et cette promesse pour la nouvelle génération qu'ils atteindront au paradis et à la conquête de la terre. Si on s'occupe pas de ce qu'ils disent, pardon de dire une évidence, on peut pas le comprendre.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités François-Bernard Huyg, Margot Chouraki et Pierre Conessa dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur la propagande francophone de Daesh. Nous retrouvons nos invités qui sont les trois auteurs du rapport La propagande francophone de Daesh, la mythologie du combattant heureux. Margot Chouraki, journaliste et auteur. Pierre Conessa, co-directeur de l'Observatoire des radicalisations au sein de la Fondation Maison des sciences de l'homme. Et François-Bernard Huyck, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de l'influence stratégique et auteur de Daesh, l'arme de la communication dévoilée. Qu'est-ce que l'on apprend à travers votre étude et le travail que vous avez fait pour la rédiger? Qu'est-ce que l'on apprend sur l'organisation de Daesh? Quels éléments vous paraissent fondamentaux par rapport à cette organisation? François-Bernard Huyck.
Je dirais que c'est une organisation territorialisée, hiérarchisée, militarisée sur un territoire avec des tribunaux, une monnaie, etc., avec un système donc très, très pyramidal. Et une machine de guerre, bien entendu, plus une machine de communication sans égale jusqu'à présent. Enfin, pour eux, dire et montrer est aussi important que faire, tuer et conquérir. Donc, ils sont toujours dans ce double plan de la lutte militaire sur terre et de la conquête du paradis et de l'eschatologie, l'arrivée prochaine d'un monde pacifié uni par l'islam qui a été promis par Allah. Il leur inflige encore quelques petites épreuves pour éprouver les meilleurs, mais c'est une promesse absolue, ça va se produire. Donc ça, c'est très important de dire ça. La communication est aussi importante que l'action. Je dirais, troisième élément, il y a quelque chose de centralisé qui part de leur territoire en Syrie, en Irak, mais il y a aussi quelque chose de décentralisé, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont toutes ces communautés qui reprennent ce discours et dont certains membres organisent des attentats, leur petite djihad sur place, de manière improvisée amateur, mais improvisée amateur qui fait des morts.
Alors, idéalisation et utilisation de l'hyperviolence, et cette hyperviolence, elle a un but bien précis, c'est faire réagir, Margot Chouraki.
Alors évidemment, on connaît les vidéos de décapitation, notamment celle de James Foley, mais ce n'est qu'une toute petite partie en fait de la propagande de Daesh, et les vidéos en fait produites vraiment par Daesh avec des gros moyens, des caméras extrêmement sophistiquées, des montages très cut, des effets sonores, des effets visuels,
des films par drone.
Il y a des drones. Enfin, ils ont vraiment toutes les technologies les plus modernes à disposition des journalistes occidentaux et des plus grandes rédactions. Et en fait, il y a évidemment ces vidéos de décapitation qui ont beaucoup frappé les esprits, mais il y a surtout, et c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est en fait des grandes vidéos, des grandes publicités pour vendre le califat comme alternative au mode de vie occidental. Et c'est la grande différence avec toutes les autres organisations djihadistes, Al-Qaïda en premier, c'est que Daesh est le premier à avoir donné vie à un territoire, à un califat avec des frontières. L'une des premières vidéos d'ailleurs de Daesh, à l'été 2014, juste après la proclamation du califat, c'est la vidéo de la destruction des accords, enfin de la frontière, excusez-moi, Sykes-Picot, entre l'Irak et la Syrie. Et là, c'était vraiment montrer que Daesh renversait l'ordre mondial tel qu'il a été établi par les Occidentaux depuis le début du XXe siècle. Et puis, il y a tout ce qui est reportage sur ses administrations, la mise en place du dinar, or à la place du dollar, le fonctionnement des hôpitaux. Il y a des sujets encadrés avec des infographies. Il y a même, on en a pas mal parlé, il y a ce journaliste britannique qui s'appelle John Cantley, qui a même fait des lives, des véritables reportages en live d'Alep, de Kobané, pour montrer à quel point le territoire, le califat, était bombardé par les Occidentaux. Et c'est vraiment à la manière des Occidentaux. Et tout ça, c'est très important de comprendre à quel point Daesh vend un mode de vie où la justice règne, où il fait bon vivre, où ils mettent aussi avant tout en avant les combattants, les héros étrangers. Et là, il y a des Français qui parlent, des Anglais, chaque nationalité enjoint les autres à venir les rejoindre. Je pense par exemple à la vidéo d'un Français converti, Salman Al-Farenzi, comme il le présente, qui témoigne, il dit « Je viens d'une famille chrétienne, j'ai été baptisé », il raconte sa hijra, ça fait un an que je vis au Cham, quand ma femme est arrivée, on nous a donné une maison, on reçoit un salaire. Il y a aussi beaucoup de vidéos vidéo sur les lionceaux du califat. Ça, c'est extrêmement important, les lionceaux étant les enfants. Il y a, par exemple, une vidéo sur les traces de mon père qui est sortie en mai 2016, où c'est un jeune francophone d'une dizaine d'années qui a perdu, en fait, son père français au combat en Syrie ou en Irak. Et il s'entraîne, on le voit s'entraîner sur des cibles à l'effigie de François Hollande. Et il explique comment il rêve de mourir en martyr, que ça soit pour défendre les terres du califat ou pour aller
au monde, oui.
Exactement s'exploser en France ou en Europe avec le même objectif, défendre son territoire.
Alors, les rentrants, les revenants, Pierre connaît ça, ils mettent à mal cette image que Daesh cherche à mettre en avant. Est-ce que ça peut être un outil de contre-propagande ?
Non, je crois que on ne sait pas aujourd'hui quelle est l'attitude intellectuelle des revenants. C'est-à-dire qu'effectivement, on prend la précaution de les mettre en prison quand ils arrivent, pour les, au moins pouvoir se réfléchir, le diagnostiquer, aller voir ce qu'ils ont dans les entrailles. Et effectivement, il y a un problème très très grave qui est celui de ces enfants. C'est-à-dire ces enfants qui ont passé un certain nombre d'années dans l'État islamique avec la formation dont parlait Margot, et pour lesquels il faut reprendre un système éducatif et un respect de l'autre, si vous voulez, pratiquement à zéro. Donc on n'a pas aujourd'hui d'expérience et on ne sait pas aujourd'hui comment faire vis-à-vis des revenants. On sait qu'effectivement, il y a une procédure pénale pour ceux pour lesquels on a les preuves qu'ils ont participé à des combats, mais on est face à un véritable problème. Moi, je voudrais revenir une minute sur le problème de l'hyperviolence. C'est pas parce qu'on met le terme d'hyper que la violence est plus illégitime que celle qu'on trouve dans les films de Tarantino, hein, si vous voulez. Donc, moi, je reste personnellement. Je vous cite un exemple avec Expendable 1, Stallone, vous savez, l'éternel combattant, redresseur de tort, va dans un pays d'Asie centrale où il y a un dictateur, évidemment, et il va couper la tête de son adversaire, qu'il va livrer dans un petit sac. C'est-à-dire que les spectateurs ne voient pas la tête décapitée, ce qui est déjà une précaution de censure assez agréable. Et donc, quand on voit les mêmes scènes faites par Daesh, on se dit c'est scandaleux. Bon, je vous signale quand même qu'en matière de décapitation, l'Arabie Saoudite, la dernière fois qu'elle a fait une punition collective, elle a décapité 45 personnes sur 4 villes différentes, retransmises à la télévision. Or, cette violence-là, on considère qu'effectivement, c'est un État organisé, donc ça ne peut pas être condamnable. Non, on a un discours dénué de toute distance critique. On a mis volontairement dans le rapport, côte à côte, une image d'un enfant avec le bandeau glorifiant Allah, si vous voulez, que ses parents sont en train de former à tuer du mécréant, à côté d'un enfant américain à qui son père apprend à utiliser un M16, un fusil d'assaut, dans un espèce de stand de tir américain. C'est exactement la même chose.
Donc il y a un effet de miroir très fort, c'est ça que vous êtes en train de dire.
Il y a un effet de miroir extrêmement fort, mais le miroir, simplement pour nous, il est sans teint. C'est-à-dire qu'on ne voit que l'autre, si vous voulez.
Margot Chouraki.
Il y a ce réalisateur américain qui parle de Daesh comme le Daeshwood. Ça résume tout, c'est-à-dire qu'il y a la violence de Tarantino, comme le disait Pierre. Il y a aussi, évidemment, toute l'esthétique des jeux vidéo. J'ai le souvenir, comme ça, de cette vidéo post-13 novembre, à la gloire de tous les tueurs du 13 novembre, avec vraiment des cibles et des effets sonores et visuels, comme on les retrouve dans les jeux vidéo. C'est assez hallucinant. Il faut aussi bien comprendre que tout ça a été élaboré, pensé, réalisé par des Occidentaux, en fait.
Des professionnels,
mais occidentaux, avec ces références-là. Je pense à la dernière couverture de Rumia, le numéro 8, dont François Bernard...
Je peux même la montrer, puisqu'on est
en train de chercher sur sa tablette.
Alors, François Bernard parlait. En fait, cet homme s'appelle Ahmad Abou Samra. C'est un Américain né en France, grandi à Boston. Son père est médecin. Il a grandi dans une banlieue chic de Boston. Lui a fait ses études à l'université de Boston, était informaticien. Il a disparu des écrans radars américains en 2006, et on découvre en fait, à travers un article à sa gloire, parce qu'il est mort entre-temps dans ce Rumia, qu'il était à la tête de toutes les branches médiatiques de Daesh. Notamment, c'est lui qui est à l'origine de Dabiq, donc le magazine en langue anglaise. Il dirige la rédaction du magazine, il contribue au lancement d'Istok en russe, de Constantinople, pareil, en langue turque, et de Dar el-Islam en français. Et c'est lui qui travaille à la mise en place de Al-Rumia, qui est ce mensuel qui est rédigé aujourd'hui en 8 langues et qui est distribué tous les mois.
Distribué pas en kiosque, il faut la
mettre sur les
non, petite mais... remarque au passage, Al-Rumia, rappelons tout simplement que ça veut dire Rome, et Rome ça veut dire un jour nous installerons un émirat à Rome, ce qui inclut Paris, Berlin, etc. C'est, en clair aussi, ça veut dire un jour nous conquérons le monde, il n'y aura plus de frontières et ce sera l'Ouma partout. C'est donc ça leur utopie à long terme.
Pierre connaît ça.
Ce développement que vient de faire Margot sur ce personnage, personnage est extrêmement intéressant parce que nous avons le tropisme psychanalytique, si vous voulez, sur les départs en Syrie, en se disant, oui, les pauvres gens, faut en faire une espèce d'investigation entre psychanalytique pour comprendre quelle a été la fracture dans leur vie, qui, etc. Ce qui est effectivement vrai pour beaucoup de départs. Mais il reste qu'il y a une élite formée qui a été capable de concevoir le système, qui est capable de le faire fonctionner, qui est capable d'avoir cet effet de propagande extrêmement convaincant. Et donc, si on pense que c'est une dérive psychanalytique qui a envahi tous ces jeunes gens partis en Syrie, on va se tromper sur la lutte qu'il faut mener. Parce qu'encore une fois, si on ne fait pas cette introspection sur nous-mêmes et sur ce fait que des jeunes ayant ce type de diplôme partent en Syrie, on ne comprendra pas pourquoi on a un ennemi qui est beaucoup plus redoutable qu'on ne l'imagine.
Alors, est-ce que l'affaiblissement sur le terrain de Daesh peut avoir une conséquence sur le recrutement ? Comment lutter contre le recrutement ? Et finalement, quelques mots peut-être sur l'image de la France qu'a Daesh, et puis les liens pour élargir le monde francophone, finalement, entre ce qui s'est passé en Belgique, la France, la Suisse.
Je prends François Bernard Hugues. La première partie de ces questions en rafale. Alors, ils reculent militairement sur le terrain. Vous pouvez pas avoir 60 puissances qui luttent contre 60 000 hommes, pour simplifier, sans que ça se termine un jour. Je sais pas quand ça va se produire, mais ça se produira un jour. Donc, ils ont intégré l'idée qu'ils allaient subir une défaite géopolitique et militaire un jour, en sens que il y aura plus de califat. Alors là, il y a deux hypothèses. Soit on se dit le produit d'appel, c'est-à-dire l'établissement du califat n'existe plus, la promesse ne fonctionne plus, tout le monde va se décourager et abandonner l'État islamique, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça peut dire que des milliers de gens vont se retrouver dans Al-Nusra, dans la mouvance Al-Qaïda. Enfin, ils ne rentrent pas en France s'inscrire au Pôle emploi, c'est plus compliqué que ça. Deuxième hypothèse, j'utilise des guillemets bien sûr, l'écrasement, le martyr du califat faisant suite à des persécutions pendant des siècles des vrais musulmans par les juifs, les chrétiens, les athées, les chiites, les mauvais sunnites, etc., crée une sorte de dolorisme, vous voyez, on nous persécute. Mais il y a une promesse qu'on retrouve dans certains hadiths, disant qu'il y aura une sorte de défaite apparente, de défaite exotérique sur le terrain, qui ne sera qu'une épreuve pour les âmes bien-nées, et que la victoire qui s'ensuivra par surprise après sera plus grande encore. Donc dans cette hypothèse-là, la foi combattante resterait très forte, on va subir l'épreuve et on va faire de plus en plus d'attentats, que ça soit dans le Sinaï ou en Libye, ou de retour en Europe. Plus on nous éprouve, plus la victoire sera éclatante. Honnêtement, je peux pas trancher entre les deux, mais il faut quand même considérer sérieusement la seconde.
Pierre connaît ça.
Sur votre deuxième question, c'est-à-dire comment lutter contre cette floraison d'actes terroristes un peu partout. L'issue de notre travail, c'était quand même de nous demander quelle était l'efficacité de cette propagande sur Internet, dont tout le monde a considéré qu'elle était le principal vecteur de la radicalisation. Donc on s'est posé la question de savoir s'il existait des cas exact ou pur de loup solitaire, c'est-à-dire de quelqu'un qui aurait seulement dans sa chambre avec son ordinateur été totalement convaincu de passer à l'acte. Bon. On a donc reconstitué une espèce d'organigramme de tous les attentats qui se sont passés dans l'espace francophone sur les 20 derniers mois. Et en fait, ce qu'on constate, et au fur et à mesure de l'avancée des enquêtes policières, qu'on retrouve toujours des connexions avec ce qu'on a appelé les cellules souches, c'est-à-dire des cellules souches qui se sont implantées sur le territoire francophone depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a eu un coup de main qui est venu de ces cellules souches. Ça veut donc dire que de toute façon, c'est bien qu'on fasse de la contre-propagande sur Internet, mais que si on ne peut pas s'attaquer à ces cellules souches, dont la logique de comportement est toujours de rester en deçà de la légalité. C'est-à-dire que si vous prenez le cas d'Olivier Corel, qui a sa ferme dans laquelle sont passés tous les terroristes des attentats de ces 20 derniers mois, on l'a attrapé parce qu'en fait, il avait un fusil de chasse non déclaré. Donc, il a fallu aller chercher très loin. Pourtant, on sait très bien que c'est là qu'effectivement la phase d'incubation a pu se faire. Donc, il ne faut pas se tromper sur la nécessité de lutter d'abord contre ces cellules souches, parce que c'est ça qui constitue la base. Non, c'est plus une base arrière syrienne, c'est une base arrière française ou belge. Donc, si on ne prend pas en considération cette caractéristique-là, on n'arrêtera pas la floraison d'attentats terroristes.
Margot Chouraki.
Sur le terrain, en octobre 2016 a commencé la bataille de Mossoul. En novembre 2016, c'est le début de l'offensive de Raqqa. Donc on peut dire que l'État islamique est en repli ou en tout cas en difficulté sur le terrain. Très clairement, il produit moins de propagande. Tous les magazines dont je vous parlais, ceux-là ont disparu. Rumia a remplacé ces magazines et a été traduit en 8 langues, mais c'est une propagande qui est beaucoup moins ciblée qu'avant. Et il y a beaucoup moins de vidéos. On remarque quand même qu'il y a eu, novembre 2016, attaque dans un campus de l'Ohio. 19 décembre 2016, attentat de Berlin au camion Bélier. 1er janvier 2017, attentat contre une discothèque d'Istanbul. 3 février 2017, attaque contre des militaires au carrousel du Louvre. Mars 2017, attentat d'Orly. Mars 2017 encore, attentat de Londres. Avril 2017, attentat de Saint-Pétersbourg. Attentat de Stockholm. Donc il y a une multiplication d'attentats de basse intensité. Et c'est là où même si Daesh recule sur le terrain, l'idéologie que l'on retrouve tout au long de leur propagande et surtout les modes d'emploi donnés par Daesh dans ses magazines, dans ses vidéos pour passer à l'acte, prennent une dimension extrêmement importante. Parce que même s'il n'y a que quelques morts par attentat, il y en a pratiquement toutes les deux semaines. Et là, même s'ils perdent du terrain, on voit bien que l'idéologie perdure.
Alors, quelques mots pour conclure. Des moyens et des outils, nous en avons. Hein. Pierre connaît ça, François-Bernard Huyg. Ils ne sont simplement pas appliqués. Alors, vous évoquez la notion de réfugiés politiques. Alors, c'est vrai, particulièrement protégés par la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'empêche que si on faisait appliquer les lois, les expulsions se feraient. Enfin, finalement, on est nous-mêmes dans un état de faiblesse à ne pas vouloir appliquer certaines choses. Pierre connaît ça et c'est un...
Les traumatismes provoqués par les attentats à partir de janvier 2015 et puis ensuite novembre, etc., ont quand même fondamentalement changé le paysage politique. Hein. D'abord, on a qualifié le sujet. Au lieu d'utiliser des termes génériques comme musulman intégriste, islam radical, etc., on parle de salafisme, ce qui est déjà un immense progrès en termes de ciblage. La deuxième chose, c'est que si le salafisme, comme me l'a défini un théologien musulman, c'est la version la plus raciste, la plus antisémite, la plus misogyne, la plus homophobe et la plus sectaire de l'islam, il existe dans le dispositif législatif français de quoi réprimer ces actes. C'est-à-dire que si on appliquait effectivement sur ces cellules souches la loi, simplement, on aurait la possibilité de les démanteler. Et on ne le fait, on ne commence à le faire en fait que depuis les attentats. C'est ce que explique le ministre de l'Intérieur à chaque fois qu'il ferme une mosquée salafiste, qui évidemment, contrairement à ce qu'il disait, ne pouvait être qu'un grand lieu de diffusion de l'amour et de la paix, selon le discours, si vous voulez, de ce qu'il prétend qu'il y a de l'islamophobie en France. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important. Le deuxième, qui évidemment doit aussi changer, à mon avis, dans l'état d'esprit, c'est que la France n'est pas un état islamophobe. Il y a des entrepreneurs politiques qui essayent de développer cette thématique, hein, notamment le collectif contre l'islamophobie en France, qui n'a aucune position sur la radicalisation. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait un texte de dénonciation des attentats faits par des radicaux en France. Ils ont toujours expliqué qu'ils étaient contre la violence. Même pour le père Hamel, il y a eu un communiqué qui était absolument odieux, expliquant qu'ils étaient contre toutes les violences, et point, c'est tout. Ça s'arrêtait là. Donc là, il y a vraiment un changement d'état d'esprit, et je pense que ça va plutôt dans le bon sens.
François-Bernard, oui.
Sur le plan pénal, à mon avis, il n'y a pas besoin d'état d'urgence ou de loi d'exception. On doit avoir dans notre arsenal de quoi punir un certain nombre de propos et de comportements si on les applique. Alors, un des problèmes, d'ailleurs, c'est que on peut avoir des milliers de fiches S et repérer des éléments radicalisés. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on les met, comment on les garde. Donc ça, c'est un des problèmes. Alors, on progresse en quittant un peu cette culture à la fois narcissique et masochiste. Je veux dire, narcissique, qui nous attaque parce qu'on est un pays merveilleux où les filles peuvent prendre des bières à la terrasse et où on respecte les droits de l'homme, et masochiste, ouais, c'est parce qu'on est trop islamophobe qu'on fait trop d'amalgames. Ni l'un ni l'autre, il est temps de comprendre effectivement qu'il y a une idéologie précise passant par des modes de communication précis avec des organisations, des réseaux humains précis qui mènent ces opérations. Bon, on est quand même parti pour longtemps. Tout à l'heure, je montrais la photo de cet enfant. Cet enfant, quand il va rentrer en France, on va pas le mettre en prison, on va pas le rééduquer. Qu'est-ce qu'on en fait dans 12 ans? Voilà.
Un enfant qui ne doit pas avoir plus de 6 mois. Margot Chouraki, ultra rapidement.
Très rapidement, je pense qu'il y a une réflexion à avoir aussi sur la société du spectacle dans laquelle on vit, notamment les médias, notamment les politiques qui en jouent. Et ça, Daesh surfe sur ça. Vous parliez de miroir tout à l'heure. C'est ça qui se passe, c'est-à-dire que la propagande est efficace uniquement si elle est relayée par nos médias.
Merci, c'est la fin de Géopolitique autour donc de ce rapport, la propagande francophone de Daesh, la mythologie du combattant heureux. Merci à nos invités, les trois auteurs de ce rapport, Margot Chouraki qui est journaliste et auteur, Pierre Conessa, co-directeur de l'Observatoire des radicalisations au sein de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, et François-Bernard Huyg, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de l'influence stratégique et auteur de Daesh, l'arme de la communication dévoilée qui vient de paraître. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte.